dans le cadre de notre thématique « Soyez remplis de l'Esprit », nous allons continuer notre étude des dons spirituels, des pneumaticos, tels que Paul les a présentés en 1 Corinthiens 12. Alors, je reprends aujourd'hui les dons spirituels parce que, je vous l'avais dit la semaine dernière, comme la chorale était à Alès, il y avait beaucoup d'absents, parce qu'il y avait les choristes, il y avait des conjoints aussi, il y avait beaucoup d'absents et je sais que la thématique des dons spirituels les intéresse aussi. Donc la semaine dernière, j'avais fait une petite pause, souvenez-vous, on avait parlé dans un message d'exhortation des bienfaits de la présence de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, je reprends exactement là où j'en étais il y a 15 jours. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Si on n'a pas compris que ça doit pas être toujours les mêmes, on comprendra jamais. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. Amen. Avant de vous parler de la parole de sagesse, il faut premièrement que je vous parle ou que je vous reparle des différentes strates de sagesse qui existent. Imaginez, pour bien comprendre, imaginez comme ces trois marches qui sont là, vous imaginez trois strates, trois couches, trois niveaux, trois étages. En bas, il y a la sagesse humaine. Ça vole pas bien haut, mais il existe effectivement une forme de sagesse encore dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'il existe de la sagesse dans le monde humain, dans la nature humaine? Ben parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que le péché n'a quand même encore pas tout détruit. Donc, il peut subsister quelques bribes de sagesse et on trouve des gens dans ce monde qui ont une certaine intelligence, un peu de discernement, qui sont de bon sens, qui sont de bons conseillers, qui sont sages. Malheureusement, puisqu'ils vivent comme toute l'humanité sous la puissance du péché qui détruit, qui aveugle, etc., cette sagesse est très vite limitée. Et vous connaissez l'adage, les conseilleurs souvent ne sont pas les payeurs, parce que eux-mêmes étant pris par la puissance du péché ne peuvent pas appliquer ce qui leur semble bon. Mais c'est vrai qu'il y a dans ce monde une certaine forme de sagesse. Vous en trouvez dans les fables, dans les récits. Il y a eu des penseurs, il y a eu des philosophes. Vous avez des braves gens dans tous les domaines, dans toutes les sphères, qui vous expliqueront qu'il ne faut pas apprendre à mépriser la petite fourmi qui passe parce qu'un jour tu en auras besoin. Ne méprise pas le plus petit et ne te laisse pas flatter par le renard si tu es corbeau dans ton arbre avec ton fromage. Et vous avez toujours une forme de sagesse, des choses qui sont, oui, bon, maintenant, c'est gentil, ça va pas bien loin, ça va pas très haut non plus, mais il y a quand même quelques conseils qui sont gentils, qui sont de bon sens. Mais on sait très bien qu'on va pas aller bien loin avec ça. Au-dessus de la sagesse humaine, il y a la sagesse divine. Et au-dessus de la sagesse de Dieu, elle vient évidemment de Dieu, mais je vais vous montrer en quoi elle est plus précise, plus particulière, et que c'est une part supérieure de sagesse de Dieu qui est accordée aux croyants remplis du Saint-Esprit, c'est la parole de sagesse. Alors, vous imaginez bien ces trois niveaux. On va juste regarder rapidement la sagesse humaine, j'ai commencé à vous en toucher deux, trois mots. La parole de sagesse est infiniment supérieure, évidemment, à la sagesse humaine. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ça? Parce que, comme pour tous les autres dons, il faut comprendre, c'était le premier point, le premier principe que j'avais développé avec vous au sujet des dons, je le rappelle, oui, il y a encore dans ce monde, il y a des capacités naturelles, il y a des aptitudes, Mais nous ne devons jamais confondre les aptitudes naturelles, humaines, avec des dons spirituels. Les aptitudes, il y en a, mais ça n'a rien à voir. Il y a une certaine forme de sagesse que parfois on peut acquérir avec le temps, avec l'expérience, avec des échecs, peut-être dans votre vie. Vous qui aujourd'hui avez un peu plus de cheveux blancs, vous dites « Oh, ça, on ne m'y reprendra plus. J'ai appris. » Il y a une certaine forme de sagesse qui peut venir avec la réflexion, avec les expériences, avec les échecs, etc., etc. Mais même ça, même dans ce domaine, la Bible est très claire sur le fait que cette forme de sagesse qu'on peut acquérir par la réflexion ou par l'expérience reste quand même très limitée. Cette forme de sagesse, vous l'avez compris, elle peut venir avec le temps, avec les cheveux blancs, etc., etc. Mais la Bible est claire, le livre de Job dit, au chapitre 32, « Je disais en moi-même, le nombre de mes jours parleront, le grand nombre de mes années enseignera la sagesse. » Je disais en moi-même. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le roi, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. La sagesse humaine, elle est très, très, très limitée face aux situations que nous sommes appelés à rencontrer les uns les autres. Et ma citation se termine par cette phrase au verset 9, « Ce n'est pas l'âge !» Désolé, mes frères et sœurs qui êtes aînés et pour qui j'ai un immense respect, la Bible dit « Honore les cheveux blancs, je le fais », mais la Bible est très claire aussi sur le fait que ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, c'est-à-dire avec sagesse de statuer, d'estimer des situations. Mes frères et sœurs aînés, pardon, si vous comptiez sur vos cheveux blancs pour être particulièrement sage, vous faites fausse route. Et si vous misez sur votre sagesse, même s'il y en a une forme qui peut être intéressante, vous risquez d'avoir bien des déconvenues. Le proverbe 3 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est facile, c'était écrit. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Alors, évidemment, là, on a parlé un petit peu de la sagesse humaine, je ne m'étends pas là-dessus, vous n'avez pas de mal à comprendre à quel point elle est limitée. Au-dessus de ça, au deuxième étage, on va dire, dans cette deuxième couche, dans cette deuxième strate, au-dessus de ça, il y a la sagesse de Dieu. Cette sagesse, c'est ce que nous pouvons appeler la sagesse spirituelle, cette sagesse générale qui est inhérente, normale à la vie chrétienne. Cette sagesse spirituelle générale que nous pouvons acquérir en tant que chrétiens de différentes façons, je vais en parler rapidement, mais cette sagesse spirituelle générale qui vient de Dieu pour, j'insiste bien, j'ai mis ici sur le PowerPoint, pour la vie chrétienne normale. Nous sommes censés, nous chrétiens, être les gens les plus sages de cette terre. Et malheureusement, pardon, dans la façon de gérer nos vies, dans nos choix, dans la façon dont parfois nous fixons ou pas certaines priorités, dans nos propos, dans des comportements, dans des attitudes, dans des gestions, qu'elles soient spirituelles, familiales, financières, matérielles ou ce que vous voulez. Ouf ! Seigneur, fais-nous grâce, donne-nous ta sagesse. On en a réellement besoin. Cette sagesse générale, cette sagesse spirituelle, c'est celle que Dieu donne à celui qui l'a demande. Je vous ai mis en exemple un récit très connu dans le deuxième livre des Chroniques. Vous avez sous vos yeux ici 2 Chroniques 1, versets 10 à 12. C'est le roi Salomon. Il vient d'hériter du trône de David son père. Il doit régner. Le Seigneur lui apparaît et lui dit « Salomon, il lui apparaît une nuit, vous relirez ça. Il lui dit « Salomon, demande-moi ce que tu veux et je le ferai pour toi ». Il fallait déjà avoir une certaine forme de sagesse et d'intelligence pour dire « Seigneur, donne-moi ta sagesse et ton intelligence, puisque tu m'as établi sur ce peuple, donne-moi donc ta sagesse et ton intelligence pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Et il nous est dit, vous connaissez la suite du récit, que le Dieu qui dit « Cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus », lorsqu'il a vu que Salomon s'intéressait à Dieu, pour lui, la sagesse c'est la nature de Dieu, comme son amour, sa grâce, sa miséricorde, il s'est intéressé à Dieu pour qui il est, pas pour ce qu'il pouvait faire ou donner, simplement pour qui il était. Et comme il s'est intéressé à Dieu pour qui il était, Dieu lui a dit, ben non seulement je vais te donner ça, mais en plus je te donnerai tout le reste. Et vous voyez de par l'histoire de Salomon que Salomon a été le roi le plus sage, le plus puissant, le plus béni. Il a une abondance extraordinaire. Dieu lui a vraiment donné tout le reste de la renommée, des richesses, etc. Il a vraiment eu tout le reste. Mais Salomon avait déjà cette première intelligence, l'avons-nous, pardon, de chercher Dieu pour lui-même, de chercher Dieu. Psaume 14, psaume 53. L'homme intelligent en ce monde est celui qui cherche Dieu. Psaume 14, verset 3. Psaume 53, verset 3. L'homme intelligent dans ce monde, c'est celui qui cherche Dieu. Et comme il a cherché Dieu, eh bien, le Seigneur lui a donné tout le reste. Il n'a pas cherché à avoir une vie sans problème. Il aurait pu dire, Seigneur, je voudrais surtout ne plus jamais avoir de problème de toute ma vie. Moi, c'est peut-être un truc que je demanderais, ça. Mais c'est pas intelligent comme prière. Il aurait pu demander légitimement, Seigneur, que j'ai une santé et combien j'ai de compassion pour les gens qui n'ont pas la santé. Il aurait pu, c'était légitime, il aurait pu dire, Seigneur, donne-moi la santé, que je sois plus jamais fatigué ou et que je sois en pleine forme jusqu'à la fin de ma vie. Vous vous rendez compte, une vie entière, vous êtes toujours en pleine forme, vous êtes jamais fatigué, vous avez jamais de diabète, vous avez jamais de baisse de tension, vous avez jamais de cancer, vous avez jamais une grippe, vous êtes en pleine forme du matin au soir, de 4h du matin à 23h, vous êtes en feu jusqu'à vos 95 ans. Il aurait demandé ça, le Seigneur l'aurait fait, mais c'était pas intelligent. Il aurait pu demander la mort de ses ennemis, la fin de tous ses problèmes. Il a demandé la sagesse. Est-ce que c'est une prière que vous faites? Est-ce que c'est une prière que vous faites sincèrement, régulièrement, avec ferveur? On la fait pas toujours, hein. Il y a un autre exemple extraordinaire de cette sagesse spirituelle générale qui est accessible à chacun d'entre nous par notre vie chrétienne, notre communion avec l'Esprit de Dieu. Regardez simplement dans le livre de Daniel. Daniel est un excellent exemple. Il nous est dit, à cause de l'Esprit supérieur qui demeurait en lui, cet Esprit de sagesse, Nebuchadnezzar, quand il a fait comparaître devant lui Daniel et ses amis, il a discuté avec eux, il est dit qu'il les a trouvés 10 fois supérieurs. 10 fois supérieur. On n'est même pas dans la parole de sagesse, on n'y est pas encore, hein. On est dans la sagesse chrétienne, spirituelle, normale. Le roi était scotché, il les a trouvés 10 fois supérieurs à tous les sages de son royaume. Et oui, c'est vrai, et Daniel était jeune, il n'avait pas 85 ans. Et il venait d'être déporté, il était peut-être même pas majeur, il avait peut-être l'âge de Marc ou de Christian, je ne sais pas, il avait peut-être 16 ans, à tout casser quand il a été déporté. Cette sagesse, ben c'est très simple, frères et sœurs, elle s'acquiert, bien sûr, par l'étude de la parole de Dieu. Parce que plus je me plonge dans la parole, plus j'aime le dire, je le dis souvent, la parole de Dieu, elle me donne pas des renseignements sur Dieu. La parole, associée à l'esprit, sont indissociables, font une œuvre en moi, et la parole m'amène à penser comme Dieu pense. Elle m'amène à raisonner, à articuler mes raisonnements comme Dieu raisonne. Elle m'amène à voir comme Dieu voit et par conséquent à m'aiguiller, à m'orienter, à choisir, à me diriger dans cette vie, dans toutes les sphères de mon existence, comme Dieu le ferait, comme Jésus le ferait lui-même. Donc par l'étude de la parole, oui, évidemment, je peux acquérir cette sagesse. Je l'acquiers par la prière. Dieu veut qu'on la lui demande avec foi. Jacques chapitre 1er. Quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse ? Ça m'étonne que ce soit une question. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait des chrétiens qui disent « Non, non, merci, nous savons, on n'en a pas besoin, on est au top. » Je sais pas. Il a quand même posé la question, je pense que c'était par décence, par respect. « Quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse ?» Eh bien, qu'il la demande à Dieu, qui donne sans reproche et sans compter. et Dieu va lui donner. Par contre, que celui qui demande, demande avec foi, parce que celui qui demande et qui ne croit pas fermement, il est comme un homme qui est sans arrêt ballotté par les flots de la mer, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quoi que ce soit de Dieu. Demande avec foi, et il va te la donner. C'est simple, hein ? Cette sagesse s'acquiert par l'étude de la parole, par la prière, par la demande, demander avec foi, Jacques chapitre 1er. Et puis aussi, par la plénitude du Saint-Esprit, je ne vais pas vous refaire tous les messages, toutes les facettes de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit, mais quand Paul dit « soyez remplis de l'Esprit », on sait très bien, là je vous ai mis Ésaïe chapitre 11 verset 2, il est appelé l'Esprit de sagesse. Paul à Timothée aussi dit à Timothée que le Saint-Esprit est l'Esprit de sagesse. Si j'en suis rempli, il y a beaucoup de choses que je vais gérer sagement, sans me torturer, sans, c'est un lien de cause à effet. Si le Seigneur me remplit, s'il règne en moi, tout ce qu'il est va régner pleinement en moi, avec lui, sa sagesse et le reste. Amen. Ça, c'était le deuxième palier, c'est la sagesse spirituelle, générale, qui est assez accessible à tous les chrétiens, qui le demandent, qui étudient la parole, qui ont conscience de leurs besoins et qui ont une communion avec l'esprit de sagesse. Et puis ensuite, il y a un troisième niveau, il y a une troisième strate, un troisième étage, c'est la parole de sagesse. À l'un est donnée une parole de sagesse. Pas un flot de discours, pas un flot de réflexion, une, c'est au singulier, une parole de sagesse. Et comme tous les dons spirituels, comme les neuf pneumaticos, tous les dons spirituels sont des manifestations surnaturelles, miraculeuses et ponctuelles du Saint-Esprit. Et ça, c'est encore au-dessus. Alors, ça vient aussi de Dieu. La parole de sagesse, elle vient aussi du Saint-Esprit. Mais elle vient encore à un degré nettement supérieur. Cette parole de sagesse, c'est une manifestation, je vous l'ai résumé encore ici, surnaturelle et ponctuelle du Saint-Esprit, mais cette fois-ci pour une situation précise. On parle d'une situation précise, une inspiration, une révélation du Saint-Esprit à un moment donné, précis, à un instant T. Et pour bien vous aider à faire la différence, parce que oui, je sais, les deux viennent du Saint-Esprit, mais la sagesse spirituelle générale, je la possède. Ce que j'ai acquis par la plénitude du Saint-Esprit, je l'ai acquis. Et je ne vais pas le perdre demain, à moins que je rompe ma communion avec l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur m'en garde. Mais cette sagesse spirituelle, tant que je reste dans la foi au Fils de Dieu et dans la communion du Saint-Esprit, je la possède, elle m'appartient, elle est mienne, je vis avec, évidemment. Par contre, le don, lui, la parole, elle va être ponctuelle et je vais vous donner des exemples pour vous éclaircir tout ça. J'ai mis pour vous aider à comprendre qu'elle est communiquée par le Saint-Esprit pour une situation. Là, j'ai utilisé volontairement beaucoup d'adjectifs pour vous aider à comprendre le type de situation qui va se présenter, qui nécessite un don spirituel, une manifestation miraculeuse de l'Esprit, la parole de sagesse. Communiquée par le Saint-Esprit pour une situation sensible, une situation qui est vraiment délicate, qui est vraiment problématique, une situation qui peut même être dangereuse. Je vais vous donner un exemple biblique. Une situation dans l'enjeu, dont l'issue est vraiment très sérieuse. Et c'est une situation qui est telle que même la sagesse spirituelle générale dans laquelle je me développe par la parole, la prière et la communion du Saint-Esprit, même cette sagesse-là ne sera plus suffisante. Il va falloir une dimension d'inspiration et des révélations particulières pour cette situation-là. Alors, on va prendre quelques exemples. J'ai pris ici un exemple en Luc 20 d'une situation délicate. On va le lire. En réalité, c'était un piège pour Jésus. En acte 6, une situation conflictuelle dans l'église. En acte 27, une situation dangereuse. En Luc 12, une situation de forte opposition spirituelle. Voilà des cas concrets qu'on va lire ensemble. Ce matin, je vais vous faire tourner un peu plus les pages de votre Bible. Mais voilà quelques situations qu'on va regarder ensemble pour comprendre quel était l'enjeu, l'envergure de la situation et la réponse divine qui était évidemment ponctuelle et adaptée à cette situation. Le propre d'une parole de sagesse, c'est que vous pouvez pas la dupliquer. Vous pouvez pas la copier et la prendre pour une autre situation. Ah, la sœur une telle, elle a eu ça, elle a reçu une parole, le Seigneur l'a dit de faire ça, ça a marché, je vais faire pareil. Non, la parole de sagesse, elle est pour une situation précise, à un moment précis, pour une personne précise, et elle n'est pas duplicable. On peut pas faire de photocopie, on peut pas l'appliquer. Il y a toujours la notion dans la parole de sagesse d'inspiration et de révélation particulière du Saint-Esprit pour déverrouiller une situation. D'accord ? Ça va être, si vous voulez, comme une clé. Vous avez votre sagesse naturelle, votre sagesse spirituelle générale qui est là en tant que chrétien. Elle ne suffit pas. Il y a une situation, il y a une porte devant vous qui est bloquée, c'est verrouillé. Et il faut la parole de sagesse, la parole du Saint-Esprit inspirée, révélée à ce moment-là pour dire que faire, pour ouvrir une voie, pour tracer un chemin, pour ouvrir une porte, pour dégager une issue. Ça, c'est la parole de sagesse. Et dans les exemples qu'on va voir, c'est exactement le cas. On commence avec l'évangile de Luc, au chapitre 20. Et mon premier exemple, évidemment, concerne le Seigneur Jésus, puisqu'il est en tout et partout l'exemple suprême. Luc, chapitre 20. Et au verset 20, Luc chapitre 20, verset 20. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient, qui faisaient semblant d'être justes, pour lui tendre des pièges. Le contexte, c'est ça, on veut lui tendre un piège. Et ils espèrent en réalité cerner Jésus, ils veulent vraiment le coincer pour le faire tomber. Et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Il y a un complot contre lui. L'enjeu est sérieux. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, bande d'hypocrites, nous savons que tu parles et tu enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et là, ils sortent vraiment ce qu'ils pensent. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?
Bow, bam, bow.
Là, dans une situation comme ça, même votre sagesse spirituelle générale chrétienne normale ne suffit pas. On vous pose une question. Israël est envahi par l'État romain. Si Jésus dit « Ah oui ?» Il faut payer l'impôt, puisqu'il est le Dieu qui dit qu'il faut être soumis aux autorités, etc. Il pourrait même le justifier bibliquement parlant. Si Jésus dit, mais oui, il faut payer l'impôt. Les Juifs, ça fait un moment qu'ils cherchent une occasion de le lapider. Mais son heure n'est pas encore venue. S'il répond à gauche, il est coincé par les Juifs. S'il répond à droite, il est coincé par les Romains. S'il dit oui, il faut payer l'impôt, les Juifs l'attrapent et ils le lapident. Parce qu'il va être traité de collabo. C'est ça, hein, c'est exactement ça, d'accord ? Collaborateur, collabo de l'État envahisseur, de l'État romain. Parce que Israël est sous occupation romaine. Comme pendant un temps, la France a été sous occupation nazie. Eh bien, tous ceux qui étaient un petit peu trop du côté de l'envahisseur, eh bien, c'était des collabos. Donc, si Jésus dit, ben oui, il faut payer l'impôt, bam, t'es un collabo, allez, on va te lapider. S'il dit, oh ben non, c'est quand même injuste. Moi, je suis pas d'accord. Vous comprenez quand même. Oui, c'est un envahisseur, etc. Non, on peut pas payer l'impôt, etc. C'est Dieu d'abord, c'est pas ceci, c'est pas machin, etc. Les Romains, ils vont dire, oh, incitation à la rébellion. T'es un dissident. T'essaies de nous faire une sédition, Jésus. Allez, on l'embarque. Il était bien fisqué, le plan. C'était super malin, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations ? Pour nous, c'est simple. On a lu ça 10 fois, on n'a même pas vu que c'était une parole de sagesse. Alors Jésus, qui était pleinement rempli du Saint-Esprit, je vous l'ai dit, Jésus n'a jamais présenté la vie chrétienne autrement que rempli du Saint-Esprit. Jésus, parfaitement rempli du Saint-Esprit, reçoit à ce moment-là une parole de sagesse qui va permettre de lui dégager une issue. Puis Jésus, il prend cette pièce. Moi, j'y aurais pas pensé, hein, vous non plus d'ailleurs. Quand vous manipulez de la monnaie tous les jours, vous savez même pas ce qu'il y a sur les pièces, vous regardez même pas. Jésus prend la pièce, il dit, de qui est cette effigie? C'est la tête de qui qu'il y a sur la pièce? Ben, c'est César! Eh ben, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça s'appelle une authentique parole de sagesse. Jésus, verset 23, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ben, et de César, répondirent-ils. Eh ben, alors, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Merci Seigneur, merveilleux exemple de parole de sagesse. Verset 26 même, ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Face à des situations délicates de nos vies, frères et sœurs, quand on essaye de nous tendre des pièges, il y a peut-être des moments sur votre lieu de travail où des collègues vous ont balancé des trucs bien comme il faut au sujet de votre bon Dieu, et ils vous ont posé des questions bien épineuses. Et vous savez, c'est pas un jugement, c'est pas un reproche. Vous savez ce que font 90% des chrétiens quand ils savent pas répondre? Eh ben, ils préfèrent se taire, ils parlent plus. On se dit, ben, au moins comme ça, si je parle pas, je suis sûr de pas dire des bêtises. Et le Saint-Esprit te dit, va dans ta chambre, enferme-toi, je vais te remplir. Cherche ma face, je vais te donner des paroles qui vont scotcher tout le monde. Paroles de sagesse. Un autre exemple. Actes chapitre 6, vous venez avec moi? Actes chapitre 6. On est à l'époque de l'église primitive, les disciples augmentent considérablement, c'est une époque où, vous le savez, vu des temps de guerre, il y a un grand nombre de veuves. Et puis, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas, évidemment, et il y a évidemment beaucoup de besoins à beaucoup de niveaux. L'église est naissante, et puis, eh bien, il y a c'est bien plus que des élans de générosité, c'est de prendre soin les uns des autres. On prend soin des veuves, mais le nombre des disciples augmente considérablement. Et puis il y a des hellénistes, il y a d'autres nations qui viennent se joindre aussi à l'église primitive. Il n'y a pas que des juifs. Et à un moment, le nombre augmente et on peut plus pourvoir aux besoins de celles qui sont là. Puis ça crée des tensions parce que ben elles ont autant le droit qu'aux autres, évidemment, d'être servies. Alors, en ce temps-là, verset premier, le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Que faire? C'est quand même une situation ecclésiale, hein? C'est quand même un conflit ecclésial. Et il va y avoir une merveilleuse inspiration du Saint-Esprit, une parole des 12, puisque c'est dans cette crise, dans ce moment difficile, on a un peu du mal, nous, à l'estimer sur quelques lignes comme ça, mais c'était vraiment une crise au niveau ecclésial, eh bien les 12 vont profiter de cette crise pour recevoir une parole de sagesse qui va être l'occasion d'instituer les diacres. Parce que là, il y a une tentation pour les 12. C'est qu'ils pourraient se dire, oh les pauvres, ah non, c'est pas normal, ah, il faut les aimer, il faut abandonner personne. Allez les gars, Pierre, Jacques, Jean, vite, enlevez vos vestes, allez, on va servir, on va faire ci, on va faire ça, on va s'agiter, hop, on va faire comme Marthe, on va faire ça, et vous venez là. Bon, tu me construis ça, tu me dégages ça, ok, et toi tu me fais ça. Moi je le comprends mieux que vous, parce que pour un pasteur, la tentation de retrousser ses manches et de vouloir combler partout où il y a des trous dans l'église, c'est énorme. Énorme la tentation. Alors j'ai pas dit que je pouvais pas passer un coup de balai, hein, je suis pas manchot non plus, hein, je suis pas. Mais il y a une tentation effectivement. Et là ils ont une parole. Ils ont senti que cette crise pouvait être un piège, une occasion de les détourner de l'essentiel. Et ils ont dit, vous lisez avec moi au verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Là, on parle de sagesse spirituelle, chrétienne, normale, générale. Plein de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Et cette crise a été l'occasion d'instituer des diacres dans l'Église, et tout ça a été réglé et est né par une simple parole de sagesse. Pour sortir d'une crise ecclésiale, une parole de sagesse a suffi. Amen. Un autre exemple. Actes, chapitre 27. Actes, chapitre 27. On va prendre verset 21. J'écourte la lecture volontairement parce que c'est un grand récit. Actes, chapitre 27, au verset 21. Dans ce contexte, Paul est prisonnier et il est en péril avec tout l'équipage qui est en train de se rendre à Rome. Et dans ce naufrage, Dieu va lui révéler justement la conduite à tenir pour que justement l'équipage soit sauvé. Et voici ce qui est dit au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, il est sur le navire à ce moment-là, Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous, devons échouer sur une île. On prend un petit peu plus loin au verset 30, vous pourrez tout relire chez vous si vous le désirez. Verset 30, comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers, aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pourrez pas être sauvés. Parfois, la parole de sagesse est totalement opposée à la sagesse humaine. Je sais pas ce que vous faites, vous, mais moi, en général, si le bateau coule, je reste pas dedans, hein. Je prends la chaloupe, je descends et je rame et j'essaie de regagner le rivage. C'est logique. Ça, c'est la sagesse humaine. Voilà. Mais il y a une inspiration, il y a une révélation divine qui va même, je le dis, à l'encontre de la sagesse humaine. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Verset 44b, vous relirez tout le reste, les détails chez vous. Ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. Il y a effectivement eu comme dégâts, comme pertes, que celle du navire. Et il y avait dans ce navire, il y avait 276, c'est écrit, vous relirez, 276 personnes. Une parole de Dieu a sauvé 276 personnes. Parce que il y avait un homme qui était rempli du Saint-Esprit et qui croyait aux communications surnaturelles, ponctuelles, qui était prêt à obéir à la parole de sagesse donnée par le Saint-Esprit. Et j'insiste, frères et sœurs, il faut vraiment que ce soit inspiré, il faut que ce soit la révélation du Saint-Esprit pour une situation, et évidemment parce que sinon, vous vous doutez bien que ça ne pourra pas marcher. Et j'insiste aussi sur le fait qu'une parole de sagesse, oui, peut s'opposer à la sagesse et à la logique humaine, parce que Dieu révèle son plan et il dit, lui qui est souverain et omniscient, il dit comment les choses vont se passer, et parce que je sais que ça va se passer comme ça, je te le révèle, et il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu passes par là. Et la parole de sagesse va ouvrir une voie salutaire pour 276 personnes. Ça vaut le coup de chercher le Saint-Esprit, non? Allez, un autre texte. Dans l'évangile de Luc, ce sera mon dernier exemple. Évangile de Luc. Et là, le contexte sera plutôt une situation de forte opposition spirituelle. Luc 12, verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, Jésus a pas dit, parce que vous êtes chrétien, ça va toujours baigner pour vous, on va vous dérouler le tapis rouge. Oh, c'est merveilleux qui vous êtes. Oh, c'est merveilleux votre message. Vos chants dans vos églises, c'est trop génial. Ah, oh, t'es chrétien. Oh, bienvenue, tu veux une promotion, super. Jésus a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. ce qu'on m'a fait à moi qui suis le bois tendre. Imaginez ce qu'on va vous faire à vous qui êtes le bois dur. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et vous savez que la nuit s'épaissit. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous, chrétiens français, dans notre petite bulle de confort où tout va bien. Dans le monde, il y a 250 millions de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Un chrétien sur trois est persécuté d'une façon ou d'une autre parce qu'il confesse Jésus-Christ. Comment on gère ça? Avec la fable de la fourmi et de je sais pas quoi? Dans ce genre de cas, même la sagesse spirituelle générale normale de ma vie chrétienne ne suffira pas. Il faudra être rempli du Saint-Esprit, être réceptif à l'inspiration d'en haut et recevoir des paroles d'en haut pour savoir quoi répondre à certains moments cruciaux. Et Jésus promet dans ce contexte de la fin des temps, dans ce contexte difficile, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Parce que depuis le temps que vous êtes chrétien, vous aurez bien un petit souvenir de prédication, vous aurez bien un truc à ressortir. Ça suffira pas. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même, et c'est ce qui me fait dire que c'est une parole de sagesse que le Seigneur Jésus promet lui-même à ceux qui seront dans ce genre de situation, à l'heure même, la parole spécifique, miraculeuse, surnaturelle, sous l'inspiration de l'Esprit, à un instant T, pour une situation précise. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire, amen. Preuve qu'il n'y aura pas de calcul, il n'y aura rien de préparé, ce sera vraiment une inspiration, une révélation surnaturelle du Saint-Esprit. Devant des situations, frères et sœurs, et Dieu sait qu'il y en a, il y en aura peut-être même de plus en plus dans nos vies, dans ce monde, dans cette société qui est de plus en plus noire, de plus en plus sombre, et qui s'enfonce dans sa misère, dans sa boue, dans son péché, devant des situations sans issue, devant lesquelles vous ne saurez quoi faire, il n'y a que des paroles de sagesse qui pourront vous ouvrir la voie, des paroles inspirées qui viennent d'en haut, soit quelque chose qui va être communiqué dans le cadre du culte, dans un lieu public. Quant à la forme d'expression, c'est pas grave. Oui, dans le cadre d'un lieu public, dans le cadre d'une cellule de prière, dans le cadre d'un rassemblement, d'une réunion, peu importe, dans le lieu public, dans un cadre public, ou alors parfois dans un entretien, dans un partage entre frères. Quelqu'un peut avoir une parole pour vous. Vous pouvez avoir une parole inspirée pour quelqu'un. Ou parfois, ça peut être aussi simplement des paroles qui vont monter dans votre fort intérieur et le Seigneur va vous montrer, comme dans le cas de Luc 12, c'est une parole qui va monter par l'Esprit dans votre fort intérieur et le Seigneur vous donnera la parole de sagesse à ce moment-là pour savoir ce qu'il faut dire, ne pas dire, quand il faut parler, ne pas parler, s'il faut dire, eh bien, qu'est-ce qu'il faut dire, que faut-il répondre, etc., etc. Une parole inspirée, une révélation du Saint-Esprit. Il y a toujours eu, frères et sœurs, je conclue, il y a toujours eu des situations, et il y en aura de plus en plus, dans lesquelles même notre sagesse chrétienne, spirituelle, normale, quotidienne, sera insuffisante. Et il y aura toujours des situations bloquées, il y aura toujours des situations épineuses, il y aura toujours des situations délicates, dangereuses, conflictuelles, problématiques, des pièges qu'on vous tendra parce que vous êtes chrétien, de l'opposition spirituelle plus forte à un moment qu'à un autre. Et non seulement nous avons besoin de la sagesse d'en haut, mais nous avons besoin des dons spirituels qui sont des merveilleuses bénédictions. Les dons spirituels, les pneumatikos, sont bien plus précieux est bien plus utile que ce que nous concevons pour l'instant. Et nous en avons besoin, et je vous encourage, Paul l'a dit, je vous exhorte, cherchez le Saint-Esprit, cherchez les dons spirituels, aspirez aux dons, brûlez avec ardeur, poursuivez, désirez sincèrement, occupez-vous sérieusement des dons, demandez à Dieu, parce qu'ils sont une réelle source de bénédiction, et ils en valent vraiment la peine. Je prie de tout mon cœur pour que le mouvement de Pentecôte en France soit de plus en plus pentecôtiste. Parce que frères et sœurs, si on perd la dynamique, si on perd le mouvement de l'esprit, on va devenir des monuments. si on perd cette dynamique de l'esprit, cette dimension d'inspiration, de révélation, si on perd les manifestations surnaturelles de l'esprit qui sont la preuve de son amour, de sa grâce et de sa vie dans notre sein, on va devenir des monuments. Et c'est pour ça que Paul, pour préserver les Corinthiens, pour préserver les générations de croyants qui arrivaient derrière les Corinthiens jusqu'à nous, qui sommes à la fin des temps, disait « Aspirez aux dons, ils en valent la peine, le Saint-Esprit veut nous encourager ». Il veut nous enrichir de ses communications surnaturelles, miraculeuses, et on l'a relu ce matin. Il veut les distribuer à chacun selon sa volonté. Amen.